Vincent François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un expert en accessibilité numérique, fondateur de Consultation Boréal, informaticien, on peut le dire.
Absolument.
Ce rêve-là, vous avez pu le vivre complètement et aussi être en constat de ce que les nouvelles technologies peuvent faire maintenant pour des personnes en situation de handicap. Juste donner la parole à Yvonne avant. Pour Vincent, ça a été une façon d'entrer en contact avec des gens de partout dans le monde, garder des amitiés aussi, de s'épanouir en quelque sorte.
Bien, tout à fait. Premièrement, ça lui a permis de faire son secondaire, parce que Vincent, il a énormément de difficultés là, à écrire. Alors, d'avoir... il était le seul, là, surtout si on recule plusieurs années en arrière, d'avoir un ordinateur portable là, à l'école. Ça lui permet de prendre quelques notes, de faire ses examens aussi, là, parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Également, il s'intéresse beaucoup à la politique. Elle s'intéresse beaucoup à la géographie. Alors, il va sur toutes sortes de sites, de chats. Vincent, il a des amis partout dans le monde.
Oui. On peut voir, Vincent François, à quel point ces nouvelles technologies-là, et peut-être davantage depuis les 10-20 dernières années, ont contribué carrément à contourner les barrières que peuvent entraîner un handicap.
Exactement. Et là, cet exemple est merveilleux parce que de savoir qu'un enfant a pu faire son secondaire grâce aux technologies et que 20-10 ans avant, il n'aurait probablement pas pu le faire, ou ça aurait demandé des complications d'organisation qui auraient fait que ça aurait ajouté des barrières. Donc là, c'est quand même assez formidable. Et moi, quand je donne des cours d'accessibilité un peu partout dans le monde, souvent, j'explique aux gens que dans la salle, on est suffisamment âgé pour savoir qu'on peut vivre sans les technologies d'information. On a vécu, on a travaillé, on a été en concurrence, on a fait de l'économie, on a fait tout ce qui fait notre tissu social et sociétal et sans informatique. Or, les personnes handicapées sont les premiers bénéficiaires de ces outils. Et on a souvent l'impression de les laisser un peu pour compte en disant « on a inventé un nouveau produit, puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire pour les personnes handicapées. » Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait renverser la donne en disant si les outils informatiques n'étaient faits que pour ceux pour qui c'est vraiment indispensable, c'est-à-dire des gens comme Vincent, alors on verrait les choses tout à fait différemment.
Oui. Et déjà, d'entrée de jeu, et c'est votre combat, Vincent, de penser à l'accessibilité, parce que c'est bien qu'un outil existe, encore faut-il qu'il soit accessible et à tous.
Exactement. Et de la même façon que dans le monde physique, on a mis un certain temps à comprendre qu'une rampe d'accès à un trottoir, à une rampe d'accès à un escalier, des boutons en braille, un ascenseur, etc., étaient des choses qui sont devenues tellement naturelles et tellement utiles pour les personnes qui vivent avec des barrières en se déplaçant en chaise roulante ou en étant aveugle, etc., qu'on a mis un certain temps, mais on le comprend, c'est devenu évident, fait partie des normes de construction. Ben, c'est pareil dans le monde numérique. On a un certain retard. Un retard qu'on rattrape petit à petit par la bonne volonté des gens, par certaines normes, par des standards internationaux, par des actions de certains gouvernements, et on avance, mais on peut toujours se plaindre que ça n'avance pas assez vite.
Oui, et j'imagine aussi par ce contact de personnes qui créent le numérique et des personnes qui en bénéficient comme des personnes en situation de handicap.
Ben exactement, c'est ce contact qui est quand même primordial. Moi, c'est pour ça que j'aime ce travail, parce que bon, il y a des enjeux techniques. L'ingénieur que je suis peut triper sur des problèmes à résoudre. Comment une personne aveugle va avoir accès à un écran, par exemple. Puis aussi, c'est des problèmes très humains. On sait que le travail qu'on fait sert réellement à des vrais gens qu'on a vraiment besoin. Moi, j'ai pas de problème avec mes yeux ou à me déplacer, donc je peux très bien acheter le journal en me déplaçant, en payant des pièces de monnaie. Il y a des gens pour qui ça n'est pas possible de faire tous ces gestes-là. Ils ne pourront le lire que parce qu'il est en version numérique accessible.
À la maison. Oui. Vincent, j'ai envie de vous entendre sur des exemples de numérique accessible et outillant.
Alors, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est l'éducation, à partir du moment où on est capable de transmettre l'information qui est transmise dans le cadre d'un cours à travers un logiciel, à travers des logiciels de formation en ligne, le fait de les rendre accessibles permet donc à n'importe qui, quelles que soient les situations de handicap, à suivre le cours, mais surtout à en tirer des bénéfices, et puis aussi à y apporter sa contribution. Parce qu'il y a aussi ça qu'on oublie parfois dans la démarche d'accessibilité, c'est qu'on dit on ne veut pas oublier des personnes qui sont dans des situations de handicap. Et puis en fait, ça veut dire tiens, on est prêt à les oublier parce que c'est des pourcentages pas significatifs, etc. Ce genre d'excuses qu'on entend régulièrement. mais on se prive aussi de la participation de ces gens au monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui est presque la chose la plus importante. C'est pas parce qu'on a eu un accident ou parce qu'on a une déficience physique qu'on n'a pas quelque chose à dire au monde dans lequel on vit. Et ça, on se prive de la parole et on se prive de la participation de plusieurs utilisateurs qui, pour le coup, pour ce qu'ils ont à dire, n'ont aucune limitation, ouais. Et à part celle qu'on crée dans les barrières technologiques.
Yvonne, est-ce que Vincent pourrait envisager éventuellement de continuer des études avec ces technologies-là, justement, qui sont sans cesse à la fine pointe et qui contribuent toujours de plus en plus à faciliter la vie des étudiants qui vivent en situation de handicap?
Vincent, c'est les déplacements qui sont difficiles aussi. Ouais. Alors, ça prendrait
des cours à distance
mm-hmm. de e-learning, ouais. qu'il peut faire à sa vitesse aussi.
Et ça, ce sont plein d'exemples. Là, on parle d'éducation, mais on pourrait parler de loisirs aussi, de communication, d'échange, parfois qu'on ne perçoit pas mm-hmm. et qui sont des outils, Vincent.
Alors, effectivement... pour ce qui est tout le loisir, ou même avant le loisir, le fait de se déplacer. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des petits outils, des logiciels de cartographie qui nous permettent de savoir à quelle heure on sera à tel endroit pour pouvoir choisir son métro, etc. Ça, un outil pour une personne aveugle, par exemple, ou quelqu'un qui a des difficultés de déplacement, mais qui va se déplacer de façon autonome, qui ne va pas utiliser ni un taxi, ni un service de transport adapté, vont bénéficier énormément de ce genre de choses. Vont savoir où aller, comment, et savoir si c'est un trajet fatigant, si c'est un trajet compliqué, si c'est un trajet qui est multimodal et qui va demander des changements de véhicule un peu. Donc ça, voilà un outil formidable. Ensuite, et donc, rendre accessible un outil comme ça, c'est vraiment essentiel pour l'autonomie des personnes handicapées qui auront à se déplacer. Pareil pour les loisirs, choisir un hôtel, choisir une destination, avoir accès à des... savoir réserver un vol d'avion de façon indépendante avec un site accessible, c'est pas anodin comme démarche d'autonomie.
Est-ce que ça intéresse les gens de techno, l'accessibilité universelle en numérique?
Alors...
Je vois votre visage, c'est pour ça que je ris.
Alors, les individus, oui. Les organismes, les entreprises privées qui ont des avocats qui les poursuivent s'ils ne sont pas accessibles, oui. Les gouvernements dans lesquels il y a suffisamment de gens intéressés à faire avancer les choses, oui, avec la lourdeur normale d'un groupe. Mais le reste du monde, c'est-à-dire encore beaucoup de gens, non, ils attendent un petit peu d'être frappés par un...
D'être contraints.
Oui, il y a même une attente d'être contrainte. Moi, j'ai formé plus de 1000 personnes au Québec et dans le reste du Canada en accessibilité ces dernières années. Je n'ai rencontré que des petits employés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une décision à prendre dans leur hiérarchie. Mais dès que je tapais dès que je rencontrais des directeurs ou des gens, je sentais une attention polie, mais pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que l'accessibilité marche encore beaucoup par la bonne volonté des gens.
Ouais.
Donc, la bonne volonté individuelle des gens.
Mais vous savez quoi? Vusezvoix.com est accessible. Ça, c'est une fierté. C'est essentiel, Yvonne, bien sûr, que notre site ici le soit accessible aux personnes qui vivent soit avec un handicap visuel ou, avec tout type de handicap. Vincent, on fait comment pour, et on en a parlé tantôt, mm-hmm. mais pour renverser cette boucle pour que, en fait, d'entrée de jeu, mm-hmm. Ça ne soit pas un obstacle?
Alors, d'entrée de jeu, c'est-à-dire que c'est plus facile de prévoir l'accessibilité en amont de quoi que ce soit, comme dans le monde numérique. Hein. C'est casser un trottoir pour le rabaisser après, c'est un peu pénible. Prévoir tout de suite les bonnes couleurs, les bons contrastes, avoir une bonne structure du code HTML derrière la page web pour s'assurer que ça fonctionne, prévoir les images et leurs textes de remplacement dès le début, ça coûte 15, 20 fois, 30 fois moins cher que de les corriger à la fin. Donc déjà, le bon sens fait que c'est une bonne idée de commencer par ça. Ensuite, une deuxième façon de bien comprendre, c'est d'être sensibilisé. Et le mieux que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est voir une personne handicapée être confrontée à un problème numérique. Ça, la moitié du message est passé. Une fois que les gens ont vu ça, ils sont avides de comprendre les façons de faire pour le rendre accessible.
Ou encore de voir une personne en situation de handicap bénéficier de la technologie, oui. l'utiliser, que ça puisse lui permettre d'accéder à des études supérieures, oui. de voyager, oui. d'être en contact, de contribuer à notre société. Oui. Et ça, j'espère qu'on en verra de plus en plus. Consultation-boreal.com, c'est accessible ça, Vincent?
Oui, comme vous allez voir, j'ai travaillé aux deux.
Et c'est pour ça que vous êtes là, on vous a reçu avec grand plaisir. Merci pour cette discussion, Vincent François. Vous êtes expert en accessibilité numérique et fondateur de Consultation Boréale.
Merci.